Le matin.
Le matin, on aimerait faire preuve d'audace.
Transistor.
On aimerait s'aventurer dans les rues, en criant, en caracolant, en dévastant tout sur son passage.
Une promenade radiophonique dans le monde qui s'éveille.
La population aimait sa ville 11 mois sur 12, et gare à qui la touchait. Les gratte-ciel, les distributeurs automatiques de cigarettes, les cinémas avec écran panoramique, tout cela constituait autant d'attraits indiscutables et permanents. Le seul site à bord dont on ne pouvait pas dire avec certitude s'il éprouvait ce sentiment, c'était Marco Valdo. Primo, il était difficile de le savoir vu qu'il n'était guère communicatif. Secondo, il avait si peu d'importance que, de toute façon, c'était pareil. À un certain moment de l'année commençait le mois d'août. Alors, on assistait à un changement général des sentiments. Personne n'aimait plus la ville. Ces mêmes gratte-ciel, ces passages souterrains et ces parkings adorés la veille encore, on les trouvait antipathiques et irritants. La population ne désirait plus que partir au plus vite. Et comme ça, à force de remplir les trains et d'embouteiller les autoroutes, le 15 du mois, tous étaient vraiment partis. Sauf un seul. Marco Valdo était l'unique citadin à ne pas quitter la ville. Il alla faire un tour dans le centre le matin. De larges et interminables rues s'ouvraient devant lui, désertes et vides de voitures. Les façades des maisons, de la haie grise des rideaux de fer baissés aux innombrables lattes des persiennes, étaient closes comme des forteresses. Durant toute l'année, Marco Valdo avait rêvé de pouvoir utiliser les rues en tant que rues, c'est-à-dire en marchant en leur milieu. Maintenant, il pouvait le faire et même passer au feu rouge, traverser en diagonale et s'arrêter au beau milieu des places. Mais il comprit que le plaisir, ce n'était pas tant de faire ces choses insolites que de tout voir différemment. Les rues comme des creux de vallées ou des lits de fleuves à sec, les maisons comme des chaînes de montagnes escarpées ou comme les parois d'une falaise.
Toute la journée, dans cette demeure de Tansonville, un peu trop campagne, qui n'avait l'air que d'un lieu de sieste entre deux promenades ou pendant l'averse. Une de ces demeures où chaque salon a l'air d'un cabinet de verdure et où, sur la tenture des chambres, les roses du jardin dans l'une, les oiseaux des arbres dans l'autre, vous ont rejoint et vous tiennent compagnie, isolée du moins. Car c'était de vieilles tentures où chaque rose était assez séparée pour qu'on eût pu, si elle avait été vivante, l'accueillir. Chaque oiseau le mettre en cage et l'apprivoiser, sans rien de ces grandes décorations des chambres d'aujourd'hui où, sur un fond d'argent, tous les pommiers de Normandie sont venus se profiler en style japonais pour halluciner les heures que vous passez au lit. Toute la journée, je la passais dans ma chambre qui donnait sur les belles verdures du parc et les lilas de l'entrée, sur les feuilles vertes des grands arbres au bord de l'eau, étincelant de soleil, et sur la forêt de mes églises. Je ne regardais en somme tout cela avec plaisir que parce que je me disais « C'est joli d'avoir tant de verdure dans la fenêtre de ma chambre, jusqu'au moment où le vaste tableau verdoyant je reconnus, peint lui au contraire en bleu sombre, simplement parce qu'il était plus loin, le clocher de l'église de Combray, non pas une figuration de ce clocher lui-même, qui, mettant ainsi sous mes yeux la distance des lieux et des années, était venu, au milieu de la lumineuse verdure d'un tout autre ton, si sombre qu'il paraît presque seulement dessiné, s'inscrire dans le carreau de ma fenêtre. Et si je sortais un moment de ma chambre, au bout du couloir j'apercevais, parce qu'il était orienté autrement, comme une bande d'écarlate, la tenture d'un petit salon qui n'était qu'une simple mousseline, et rouge, et prête à s'incendier, si un rayon de soleil y donnait.
Chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas, et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme.
Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne? Il doit y faire chaud, et tu t'y ragaillardirais comme un lézard. Cette ville est au bord de l'eau, on dit qu'elle est bâtie en marbre, et que le peuple y a une telle haine du végétal, qu'il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon ton goût, un paysage fait avec la lumière et le minéral, et le liquide pour les réfléchir. Mais mon âme ne répond pas. Puisque tu aimes tant le repos avec le spectacle du mouvement, veux-tu venir habiter la Hollande, cette terre béatifiante? Peut-être te divertiras-tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l'image dans les musées. Que penserais-tu de Rotterdam? Toi qui aimes les forêts de mâts et les navires amarrés au pied des maisons. Mon âme reste muette. Batavia te sourirait peut-être davantage. Nous y trouverions, d'ailleurs, l'esprit de l'Europe marié à la beauté tropicale. Pas un mot. Mon âme serait-elle morte? En es-tu donc venu à ce point d'engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal? S'il en est ainsi, fuyons vers les pays qui sont les analogies de la mort. Je tiens notre affaire, pauvre âme. Nous ferons nos mâles pour Tornéo. Allons plus loin encore, à l'extrême bout de la Baltique, encore plus loin de la vie si c'est possible. Installons-nous au pôle, là où le soleil ne frise qu'obliquement la terre, et les landes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie, cette moitié du néant. Là, nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres. Cependant que, pour nous divertir, les aurores boréales nous enverront de temps en temps leurs gerbes roses, comme les reflets d'un feu d'artifice de l'enfer. Enfin, mon âme fait explosion, et sagement, elle me crie « N'importe où, n'importe où, pourvu que ce soit hors du monde !»
Thank you. Come as you are, as you are, as I want you to be, as a friend, as a friend, as an old enemy. Take your time, hurry up, the choice is yours, don't be late. Take some rest, as a friend, as an old memory.
J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de fraises, blêmes, éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors, je levai un à un les voiles, dans l'allée en agitant les bras, par la plaine où je l'ai dénoncée au coq. À la grand ville, elle fuyait parmi les rochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. Haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi.
Je devins infini quand je gagnais les mers. J'étais plus jeune que le monde entier, et sur la côte à ma rencontre s'avançait, dans son immensité et le goût de l'univers. Non, je ne savais pas que le monde existait. Je croyais à la tour engloutie sous les eaux. J'avais découvert tant de choses en rien, dans la perforation de mes ténèbres, dans les cris de l'amour, dans les racines, que je fus l'homme inhabité qui s'en allait, un malheureux propriétaire de squelettes. Et je compris que j'allais nu, et que je devais m'habiller. Je n'avais jamais baissé l'œil vers mes souliers, je ne parlais pas les langues étrangères, je ne savais pas lire ou ne lisais qu'en moi, je ne savais pas vivre autrement que caché. Et je compris que je ne pouvais plus m'appeler comme avant, car je ne viendrais pas. Ce rendez-vous-là était bien fini. Jamais plus, disait le corbeau. Il me fallait compter avec tous ces nuages, avec tous les chapeaux que ce monde portait, avec tous ces cours d'eau, antichambres et portes, avec tous ces noms, rien que pour les apprendre. Mon exécrable vie ne serait pas trop longue. Le monde était rempli de femmes, il était bourré comme un étalage. Et par ces chevelures que j'appris soudain, par toutes ces poitrines pures et ces hanches splendides, je sus que Vénus n'avait pas d'écume, elle était sèche et ferme avec ses deux bras éternels, et de toute sa nacre dure, résistait à l'élan génital de mes sens impudiques. Tout était nouveauté pour moi, et la planète croulait de trop porter le poids de sa vieillesse. Tout s'ouvrait pour que je vive ma vie, et pour que je regarde cet éclair. Et avec de petits yeux de cheval, je vis se lever le plus grinçant des rideaux, au rideau qui montait en souriant à prix fixe, celui de l'Europe fanée.
pourtant je n'ai pas rêvé. Je me surprends quelquefois à dire cette phrase dans la rue, comme si j'entendais la voix d'un autre, une voix blanche. Des noms me reviennent à l'esprit, certains visages, certains détails. Plus personne avec qui en parler. Il doit bien se trouver deux ou trois témoins encore vivants, mais ils ont sans doute tout oublié. Et puis, on finit par se demander s'il y a vraiment eu des témoins. Non, je n'ai pas rêvé. La preuve, c'est qu'il me reste un carnet noir rempli de notes. Sur les pages du carnet se succèdent des noms, des numéros de téléphone, des dates de rendez-vous, et aussi des textes courts, qui ont peut-être quelque chose à voir avec la littérature. Mais dans quelle catégorie les classer ? Journal intime, fragment de mémoire, et aussi des centaines de petites annonces, recopiées et qui figuraient dans les journaux. Chien perdu, appartement meublé, demandes et offres d'emploi voyantes. Parmi ces quantités de notes, certaines ont une résonance plus forte que les autres, surtout quand rien ne trouble le silence. Plus aucune sonnerie de téléphone depuis longtemps, et personne ne frappera à la porte. Ils doivent croire que je suis mort. Vous êtes seul, attentif, comme si vous vouliez capter des signaux de morse que vous lance de très loin un correspondant inconnu. Bien sûr, de nombreux signaux sont brouillés, et vous avez beau tendre l'oreille, ils se perdent toujours. Mais quelques noms se détachent avec netteté dans le silence et sur la page blanche. Si je me souviens bien, j'étais toujours sur le qui-vive dans ce quartier. L'autre jour, j'ai traversé par hasard. J'ai éprouvé une drôle de sensation. Non pas que le temps avait passé, mais qu'un autre moi-même, un jumeau, était là dans les parages, sans avoir vieilli, et continuait à vivre dans les moindres détails jusqu'à la fin des temps, ce que j'avais vécu ici pendant une période très courte. À quoi tenait le malaise que j'avais ressenti autrefois ? Était-ce à cause de ces quelques rues à l'ombre d'une gare et d'un cimetière ? Elles me paraissaient brusquement anodines. Leur façade avait changé de couleur, beaucoup plus claire, rien de particulier, une zone neutre. Était-il vraiment possible qu'un double que j'avais laissé là continue à répéter chacun de mes anciens gestes, à suivre mes anciens itinéraires pour l'éternité ? Non, il ne restait plus rien de nous par ici. Le temps avait fait table rase, le quartier était neuf, assaini, comme s'il avait été reconstruit sur l'emplacement d'un îlot insalubre. Et si la plupart des immeubles étaient les mêmes, ils vous donnaient l'impression de vous trouver en présence d'un chien empaillé, un chien qui avait été le vôtre et que vous aviez aimé de son vivant.
Ce matin-là, ce fut le silence qui le réveilla. Marco Valdo se dressa dans son lit avec le sentiment qu'il y avait dans l'air quelque chose d'étrange. Il ne comprenait pas quelle heure il pouvait bien être. La lumière qui filtrait au travers des persiennes était différente de celle de toutes les heures du jour et de la nuit. Il ouvrit la fenêtre. La ville n'était plus là. Elle avait été remplacée par une grande page blanche. Aiguisant son regard, il distingua dans tout ce blanc quelques lignes presque effacées qui correspondaient à celles de la vue habituelle. Les fenêtres et les toits, et les réverbères d'alentour, mais ensevelis sous cette neige qui leur était tombée dessus pendant la nuit. « La neige !» cria Marco Valdo à sa femme, ou plutôt voulut le crier, mais sa voix sortit, étouffée de sa gorge. Comme sur les lignes et les couleurs et les perspectives, la neige était aussi tombée sur les bruits et même sur la possibilité de faire du bruit. Dans cet espace capitonné, les sons ne vibraient plus.
L'idée d'une histoire de l'univers est étrangère à l'homme de science des siècles derniers. Pour lui, immuable, les lois de la nature régissent le comportement de la matière dans un présent éternel. Les changements, naissance, vie, mort, visibles au niveau de nos vies quotidiennes, s'expliquent dans les termes d'une multitude de réactions atomiques simples, toujours les mêmes. La matière n'a pas d'histoire. Maeterlinck, dans son beau livre sur les abeilles, s'exalte sur l'organisation de la ruche. Mais son enthousiasme tourne au pessimisme quand, à la fin, il s'interroge sur le sens et l'avenir de la nature. Il est puéril de se demander où vont les choses et les mondes. Ils ne vont nulle part, et ils sont arrivés. Dans 100 milliards de siècles, la situation sera la même qu'aujourd'hui, la même qu'elle était il y a 100 milliards de siècles, la même qu'elle était depuis un commencement, qui d'ailleurs n'existe pas, et qu'elle sera jusqu'à une fin qui n'existe pas davantage. Il n'y aura rien de plus, rien de moins, dans l'univers matériel ou spirituel. On peut admettre l'expérience ou l'épreuve qui sert à quelque chose, mais notre monde, après l'éternité, n'étant arrivé qu'où il est, n'est-il pas démontré que l'expérience ne sert à rien ? Hegel exprime la même vision des choses dans son propos célèbre. Il n'arrive jamais rien de nouveau dans la nature. C'est avec la biologie que la dimension historique entre dans le domaine de la science. Avec Darwin, on découvre que les animaux n'ont pas toujours été les mêmes. À la surface du globe, les populations changent. Les hommes apparaissent il y a environ 3 millions d'années. Les poissons, il y a 500 millions d'années. À ces moments-là, du nouveau est survenu dans la nature. Il y a une histoire de la vie sur la Terre. Au début de notre siècle, l'observation du mouvement des galaxies a projeté la dimension historique sur l'ensemble de l'univers. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres dans un mouvement d'expansion à l'échelle du cosmos. De là est née l'idée d'un début de l'univers. Issu d'une fulgurante explosion, il y a environ 15 milliards d'années. Il poursuit depuis cette date sa dilatation et son refroidissement. L'image d'une matière historique s'impose maintenant de toutes parts. Comme les vivants, les étoiles naissent, vivent et meurent, même si leur durée se chiffre en millions, en milliards d'années. Les galaxies ont une jeunesse, un âge mûr et une vieillesse. L'histoire du cosmos, c'est l'histoire de la matière qui s'éveille. L'univers naît dans le plus grand dénuement. N'existe au départ qu'un ensemble de particules simples et sans structure. Comme les boules sur le tapis vert d'un billard, elles se contentent d'errer et de s'entrechoquer. Puis, par étapes successives, ces particules se combinent et s'associent. Les architectures s'élaborent, la matière devient complexe et performante, c'est-à-dire capable d'activités spécifiques. Patience, patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr.
Un jour de pluie est aussi beau qu'un jour de soleil, ils existent tous deux, chacun à sa façon. Et pourtant, bien qu'indéniablement elle soit merveilleuse, la lumière du soir, il y a quelque chose qui réussit à être encore plus beau que la lumière du soir. Et c'est précisément quand, par d'incompréhensibles jeux de courant, caprices de vent, bizarrerie du ciel, impertinence réciproque de nuées non conformes et circonstances fortuites par dizaines, une vraie collection de hasards et d'absurdités, quand, dans cette lumière unique qu'est la lumière du soir, inopinément, il pleut. Il y a le soleil du soir, et il pleut. Ça, c'est le summum. Et il n'existe aucun homme, fût-il rongé par la douleur ou à bout d'angoisse, qui, devant une absurdité de ce genre, ne sente pas se retourner quelque part en lui une irrépressible envie de rire. Il ne rira peut-être pas, ou pas vraiment, mais si le monde était un zeste plus clément, il pourrait rire. Parce que c'est comme un gag colossal et universel, parfait et irrésistible. À ne pas y croire. Même l'eau, celle qui te tombe sur la tête, une minuscule goutte prise de biais par le soleil bas sur l'horizon, ne ressemble pas à de la vraie eau. Ce ne serait pas étonnant si en la goûtant on s'apercevait qu'elle est sucrée. C'est dire. En tout cas, de l'eau pas réglementaire. Une générale et en même temps spectaculaire exception à la règle, un pied de nez magistral à toute logique, une émotion. Au point que parmi toutes les choses qui finissent par donner une justification à l'habitude, sans cela ridicule, de vivre, figure certainement celle-ci au-dessus même des plus limpides et des plus propres. Être là, quand, dans cette lumière unique qu'est la lumière du soir, inopinément, il pleut. Au moins une fois, être là.
With blue satin sashes, you play the stay on my nose and eyelashes. Silver white winter, the melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, and I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then automobile.
C'était le matin sur Transistor. Une promenade radiophonique dans le monde qui s'éveille.